Vous allez maintenant pouvoir écouter une conférence du père Alfred Brett donnée le mercredi 7 mars 2018 sur le thème « La fraternité en Christ ».
Voilà, bonjour à tout le monde. Le père Bruno Portier vient de me dire « Est-ce qu'il faut que je vous présente ?» Non, tout le monde me connaît ici, sauf peut-être quelques curistes. Bon, alors, tous les Aquois me connaissent depuis 1963. Je suis arrivé vicaire ici à la cathédrale, dont les Aquois me connaissent. Hein. Bon. Je viens très souvent à la cathédrale. Je n'ai plus actuellement aucune responsabilité de type pastoral. Il m'en restait encore une qui me donnait quand même quelques occupations à l'extérieur de Dax. J'étais le délégué de l'évêque auprès des communautés religieuses. Je ne le suis plus depuis le 28 janvier. Alors, quelle est mon occupation ? Pas ma préoccupation. Mon occupation principale... Je suis l'archiviste du diocèse, c'est-à-dire je suis responsable des papiers, je vis dans les vieux papiers et surtout dans la poussière des vieux papiers. Voilà. Et accessoirement, je donne des petits coups de main à droite et à gauche pour aider des prêtres. Voilà. Bon. Je viens ici depuis, ça fait longtemps que ce cycle de conférences a été inauguré et je viens chaque année, une fois par an, maintenant pendant le carême. Il y a quelques années, il y avait des conférences... Pendant l'été, surtout à l'usage des curistes, ça a été supprimé. J'en faisais toujours une sur un sujet divers. En général, un sujet plutôt d'histoire. Alors, on m'a demandé un sujet. Je suis censé être aujourd'hui le 4e intervenant. Mais malheureusement, le 3e, la semaine dernière, n'a pas pu venir. Il travaille à Montpellier, le père de Berger. Il avait passé sa nuit à Toulouse. Et vers 9h, il m'a téléphoné en me disant... je ne sais pas si je pourrais arriver, ça commence à neiger du côté de Toulouse. Et plus il approchait par Pau, etc., plus il neigeait. Donc, ça a été supprimé. Quand on m'a donné le sujet de ces conférences, la fraternité en Christ, très bien, oh, je dis, c'est intéressant, c'est un sujet éminemment biblique. Je vais me pencher dans Saint Paul, je vais étudier Saint Paul, les Galates, Romains et toutes les lettres de Saint Paul, un peu Saint Jean, un peu les Actes des Apôtres, l'Évangile, et je vais partir de ça. Mais à ce moment-là, je ne savais pas que le père Pierre de Berger viendrait avant moi, et que lui vous parlerait de la fraternité dans, justement, les premières communautés chrétiennes, celles de l'époque de Saint Paul. Oh, bon. Alors, mais avec Bruno Portier, il me dit, mais il faut parler de la fraternité en Christ aujourd'hui. Ah, mais c'est pas pareil. Alors, je m'y suis attelé, et le aujourd'hui dont je vais vous parler, c'est un aujourd'hui qui dure 21 siècles, depuis le début et jusqu'à aujourd'hui, et au cours des siècles, comment a été vécue la fraternité en Christ. Bon, alors le premier mercredi, je crois même que c'était à la cathédrale, vous avez entendu Pierre Blanc, qui est un Landais, un éminent professeur de géopolitique, je crois à Bordeaux, me semble-t-il, et je me demande s'il n'est pas aussi une chaire quelque part, je ne sais pas où par là, justement du côté de Montpellier, mais peu importe. Et il vous a parlé de ce qui se passe au pays du Christ. Bien. Au pays du Christ, comment est vécue la fraternité ? C'est la violence, c'est la guerre, c'est le sang versé qui ont pris depuis une cinquantaine d'années, et surtout maintenant, des proportions incroyables. Au pays du Christ, ils sont en Terre Sainte. Il y a quelques chrétiens, oui. Les quelques chrétiens qui sont en Terre Sainte sont majoritairement des Arabes chrétiens. Et il y a quelques chrétiens de langue, on les appelle les hébréophones, des judéo-chrétiens, des juifs authentiques, qui sont aussi chrétiens, minoritaires. Bien que les chrétiens soient, dans l'ensemble de la société palestinienne, très minoritaires. Mais dans cette minorité chrétienne, la majorité, ce sont des chrétiens arabes. Comment voulez-vous que ces chrétiens arabes vivent la fraternité en Christ avec les chrétiens d'origine juive, selon ce que disait saint Paul ? Alors, je me suis quand même hier un petit peu penché dans saint Paul pour vous dire en quelques mots ce que vous aurez dit l'abbé de Berger qui n'est pas venu. Qu'est-ce qu'il nous dit saint Paul ? Parlant de Jésus, il est l'aîné d'une multitude de frères. Écoutez bien ceci. Il a réconcilié avec Dieu et entre elles les deux fractions de l'humanité, c'est-à-dire le peuple juif et les nations, sous-entendu les païens. Éphésiens chapitre 2, verset 11-18. Bon, il a réconcilié en deux les juifs devenus chrétiens et puis les nations païennes qui deviennent chrétiennes. Mais pour entrer dans cette fraternité, dit saint Paul, il ne suffit pas d'être, il dit ça pour les juifs, il ne suffit pas d'être descendant d'Abraham par la chair et par conséquent par la circoncision, qui ne sert plus à rien. C'est la foi au Christ Sauveur, Fils de Dieu, qui nous fait entrer dans cette fraternité. Et le sceau, le cachet qui authentifie cette foi, c'est évidemment le baptême chrétien, l'accomplissement de la volonté du Père. Alors, saint Paul continue, « Rien ne divise les membres de cette fraternité. » Il parle même d'une nouvelle race. Mais aujourd'hui, c'est très délicat de parler de race. Il ne faut plus parler de race. Oh là 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 là, c'est péjoratif et ça sent le danger. Même dans le nouveau Magnificat, on a remplacé deux mots. On a remplacé le mot miséricorde par amour, que ça change rien du tout. Et la dernière verset, en faveur de sa descendance et de sa race. Oh non, 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 non. En faveur d'Abraham et de sa descendance. Ne parlons plus de race, mais peu importe. Race d'Abraham et ceux qui ne sont pas de la race d'Abraham, c'est-à-dire toutes les autres nations qu'à l'époque de saint Paul on appelle les gentes, les nations, pagani, ceux du dehors, ça a donné païen. Les pagani, c'était ceux qui étaient du dehors du judaïsme, voilà. Il en a fait un seul peuple dans lequel il n'y a plus de différence ni de condition sociale entre maître et esclave. C'est la lettre à Philémon. Et ils sont tous, je cite, un dans le Christ, frères et fidèles bien-aimés de Dieu. Voilà donc les vrais fils d'Abraham qui constituent, selon saint Paul, le corps du Christ. L'abbé de Berger aurait dû vous développer tout ça en une heure. Bon, il ne l'a pas fait. Voilà pourquoi Pierre Blanc, je ne sais pas ce qu'il vous a dit, je ne l'ai pas entendu, a dû vous dire qu'au pays de Jésus, aujourd'hui, en Palestine, eh ben, il n'y a pas encore la fraternité en Christ. Pas du tout. Bon, c'est la violence. Et puis, toujours avec le père de Berger, vous avez donc parcouru le Nouveau Testament, l'Évangile, les Actes des Apôtres, et c'est surtout saint Paul, évidemment. Je ne reviens plus là-dessus. Aujourd'hui donc, je vais parler de la fraternité telle qu'elle a été vécue après Jésus, c'est-à-dire depuis le début de l'ère chrétienne jusqu'à aujourd'hui. Comment elle a été vécue dans le monde et dans l'Église dont nous sommes, je dis bien jusqu'à aujourd'hui, au début de notre 21e siècle. Mais il me semble qu'avant de photographier l'aujourd'hui, il faut photographier quelques pages de l'histoire ancienne, très ancienne, un peu moins ancienne, un peu plus contemporaine, pour arriver vraiment à l'aujourd'hui. Et nous allons voir que cet idéal de fraternité en Christ n'a jamais été et ne sera jamais totalement réalisé et bien vécu. Pourquoi ? Parce que, ici-bas, nous sommes tout simplement blessés par le péché, par notre dureté du cœur, le cœur de l'homme, ce que saint Paul, d'ailleurs, appelle le vieil homme. Disons tout simplement le péché. L'homme pécheur, sauvé par Jésus, nous le sommes, reste pécheur. J'ôterai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair capable d'aimer. Ça, c'est Ézéchiel. Alors, la grâce toute puissante de Dieu n'aura jamais, jamais, je suis en train de vous faire pas une conférence, mais une homélie ici. Bon, la grâce de Dieu n'aura jamais fini d'enlever ou d'arracher notre cœur de pierre, car c'est un cœur dur. Et vous savez qu'il y a une expression, quand on parle de quelqu'un qu'on n'aime pas trop, ou qui est revêche, ou qui a mauvais caractère, on dit « il n'a pas de cœur ». Voilà, il n'a pas de cœur, c'est ça l'expression. C'est-à-dire qu'il a un cœur dur, un cœur égoïste. Alors, cet après-midi, mesdames et messieurs, je ne voudrais pas vous paraître défaitiste, pessimiste, ni vous faire voir la vie en noir. Cette fraternité en Christ, authentiquement vécue, mais si difficilement vécue, demande donc un effort constant de conversion, et nous sommes en plein carême. Elle ne sera totalement réalisée et totalement vécue que dans l'autre monde, c'est-à-dire au moment de la parousie, lorsque Jésus reviendra juge des vivants et des morts, et alors on ne pourra plus pécher. Ce sera le règne de l'amour absolu. Saint Paul nous dit qu'alors la foi et l'espérance disparaîtront. Nous vivons ici dans le régime de la foi et de l'espérance, et de la charité bien sûr, les trois vertus théologales. Mais Saint Paul nous dit, la foi et l'espérance n'auront plus lieu d'être, seule la charité nous épanouira tous, et l'homme sera alors totalement purifié. Bon, voilà par manière d'introduction. Un petit plan, ce sont des flashs. Des flashs. Regardons la scène. Qu'y a-t-il autour de Jésus à l'Eucharistie? Mais il y a les 12. Bon, là, là. Judas, posons-nous la question. Les exégètes discutent depuis des siècles, ils discuteront sans doute jusqu'à la fin du monde, pour savoir si Judas a communié ou s'il n'a pas communié. Quand Jésus lui a dit, prends la bouchée, ce que tu as à faire, fais-le vite. Bon. Est-ce que ça s'est passé après qu'il ait dit, prenez et mangez, ceci est mon corps, ou avant? On ne sait pas. Peu importe. Quels étaient les sentiments de Judas du point de vue de la fraternité? Il savait quand même qu'il allait partir, qu'il allait sortir pour chercher ses 30 cycles d'argent. Mystère. Et puis, les deux autres. Ah, ce qu'on appelle les Boanerges, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Vous savez ce qui était arrivé? Leur maman avait dit à Jésus, tu ne peux pas faire qu'après, il soit à ta droite et à ta gauche. Quelle ambition elle avait, cette madame Zébédée. Mais moi, je l'admire, cette maman, parce que vous êtes toute maman, ou vous êtes même grand-mère. Eh bien, toutes les mamans ont eu ou ont de l'ambition pour leurs enfants et les petits-enfants. Vrai ou pas vrai? Alors, on a toujours critiqué madame Zébédée. Eh bien, moi, je la félicite. Et inversement, on louait la belle-mère de Pierre. Parce que quand Pierre l'a guérie, elle s'est mise à le servir. Alors, la belle-mère de Pierre, c'était quelqu'un. La mère des fils de Zébédée, c'était une pauvre femme. Non! D'ailleurs, la belle-mère de Pierre, hein, comment s'est-elle comportée pour sa belle-fille? On ne sait pas. Bon. Bien. Passons à Corinthe. Nous sommes encore au 1er siècle. Eh bien, Paul y a annoncé l'évangile. Il y a converti des gens. Cette première petite communauté de chrétiennes de Corinthe ressemble à ce que sont toutes les communautés chrétiennes au cours du 1er siècle. Corinthe est une grande ville. Une ville cosmopolite, une ville universitaire, une ville portuaire, et en même temps, quelques aristocrates ou quelques riches, et une ville où fourmillent les gens de basse condition et les esclaves. Et c'est surtout dans ces gens de basse condition qu'est née la première communauté chrétienne. Certes, elle est vivante. Alors les esclaves, au verset 7 de la lettre aux Corinthiens, verset 21. Bien. Dont des gens méprisés. Ces chrétiens forment une communauté certes fervente et vivante, mais ils sont exposés à tous les dangers qui correspondent, qu'ils trouvent dans cette vie ambiante. Paul sait qu'il y a, alors attention, hein, il fustige, hein, quand on lit Saint Paul, il ne va pas de main morte. Hein. Aujourd'hui, il faut être gentil, il faut arrondir les angles, il faut dire les choses, il faut les arrondir, il faut les enrober de miel et de confiture. Paul ne fait pas comme ça. Hein. Bon, il sait qu'il y a dans cette communauté un incestueux qui vit avec sa belle-mère. Chapitre 5, verset 1-13. Ah, il faut le faire, ça. Hein. Bon, très bien. Il sait que des chrétiens se livrent des procès devant des tribunaux païens. Vous êtes chrétiens. Eh bien, n'allez pas devant les tribunaux païens. Entre vous, selon la consigne de Jésus, si ton frère a quelque chose, reproche à ton frère, bon, etc. Bon. Il sait qu'il y a des cas de débauche, chapitre 6, versets 12 à 20. Et surtout, il sait qu'il y a des désordres dans la célébration de l'Eucharistie. Alors, où est la fraternité en Christ là-dedans? Saint Paul leur dit ce qu'il faut faire. Aimez-vous les uns les autres, nous a dit Jésus, comme je vous ai aimé. Pardonnez-vous les uns les autres. Dialoguez, discutez. Le pardon n'est pas facile. La charité, c'est pas facile. Voilà, bien. Nombreux problèmes dans cette communauté de Corinthe. Alors, je vais laisser maintenant la Bible et je veux maintenant brosser quelques flashs et prendre par-ci, par-là, dans les époques un peu lointaines de l'histoire de l'Église. Époque douloureuse où la fraternité en Christ a été mise à mal par des chrétiens. Mais dans ces époques obscures et noires, il y a eu de grands flashs de lumière, de sainteté. Je vais essayer de vous faire quelques flashs comme ça. Il y a 50 ans, s'est terminé en 65 le Concile Vatican II. Il y a 53 ans maintenant. Et les pères du Concile ont eu et ont écrit dans les textes du Concile une phrase extraordinaire au sujet de l'Église. Et à ce sujet qui nous intéresse cet après-midi, je vais vous le dire en latin et puis vous le traduire en français. L'Église, Ecclesia, elle est sainte, sancta. Ah oui, elle est sainte, l'Église. Mais regardons l'institution Église, regardons les hommes d'Église, est-ce qu'ils sont saints? Alors le Concile ajoute, elle est sainte de la sainteté de Jésus, tête du corps mystique, de la Sainte Vierge, des saints et des martyrs, etc. Mais elle est semper reformanda. C'est ce qu'on appelle en latin un adjectif verbal, c'est quelque chose qui donne un ordre. Il faut toujours la réformer. C'est-à-dire, ça s'égare un petit peu. Eh bien, il faut la ramener, les hommes d'Église, les hommes et les femmes d'Église, sur la voie de la sainteté. C'est ce qu'essaie de faire en ce moment-ci le pape François. Je crois qu'il a du mal. Je vous en parlerai en terminant. Bon. Bien. Nous sommes toujours, et nous sommes l'Église, il ne faut pas l'oublier, nous sommes le corps du Christ, revenons à saint Paul, nous sommes toujours en état de conversion permanente, toujours en état de retour à Dieu et par conséquent de retour vers les frères. Quand nous lisons saint Paul et la première lettre, nous savons donc que ces premières communautés du premier siècle étaient fortement troublées par des conflits, par des tensions. Comment, finalement, arrivait-on à vivre au mieux, au maximum, cette fraternité en Christ, si difficile à vivre, par le martyr, figurez-vous. Le martyr qui a, pendant 3 siècles, été, les martyrs ont été les grands phares illustrant cette fraternité. Alors, j'ai mis 2 exemples. Au 3e siècle, dans la petite partie numéro 3, les premiers siècles, 3e siècle. À Rome, le pape Poncien et l'antipape Hippolyte, qui sont célébrés ensemble le 13 août. Nous sommes donc vers le milieu du 3e siècle, 230 à peu près exactement. Il se trouve que le pape Poncien devient pape, plus exactement, il devient évêque de Rome. On ne parle pas encore du pape. Le pape Poncien est élu évêque de Rome, et au moment où il est élu, par la majorité de l'Église, c'était par le peuple, par les peuples, pas par des cardinaux qui n'existent pas. Il trouve sur le siège de Rome un autre évêque de Rome que l'on appelle un antipape, c'est-à-dire un évêque de Rome usurpateur, qui s'appelle Hippolyte, dont l'Église est divisée en 2 par un schisme. Le schisme, c'est la brisure, la déchirure. Bien. L'auteur de cette déchirure, c'est un prêtre romain, réputé pour sa science et la profondeur de sa pensée, un grand théologien pour l'époque. Alors, en 217, au début, premier quart du 3e siècle, en 217, ce prêtre nommé Hippolyte n'avait pas accepté l'élection d'un diacre Calliste, c'est pas encore Poncien, Poncien viendra après. Ils sont papes très peu de temps, ils sont morts martyrs, 3 ans, 4 ans, 5 ans, martyrs. Bon. Donc en 217, le prêtre romain, professeur de l'université de Rome de l'époque, la grégorienne d'aujourd'hui, n'avait pas accepté que ce diacre soit élu évêque de Rome. Il s'est donc fait élire, lui, évêque usurpateur de Rome. Il représente une communauté dissidente. Et alors, avec son successeur Poncien, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qu'il reprochait? Le diacre Calliste, devenu évêque de Rome, et ses successeurs, Poncien et autres, ils avaient fait ce que nous avons fait, nous, exactement, avec le Concile Vatican II. Jusqu'à ce moment-là, on célébrait l'Eucharistie, on lisait l'Écriture en grec. Le peuple de Rome ne comprenait plus le grec et ne le parlait plus depuis belle lurette. Il parlait le latin de l'époque. Alors, ces papes-là, ils ont dit... Eh bien, pour célébrer l'Eucharistie, on va parler la langue du peuple, on va passer du grec au latin. Hippolyte n'a pas accepté, au nom de la tradition, ça ne se fait pas. La tradition veut que nous célébrions en grec.
En 1963, 4 et 5, Mgr Lefebvre, un Français, ancien évêque de Tulle, a dit « Il faut célébrer la messe selon la tradition, continuer à la célébrer en latin. » Et il a provoqué un schisme. Et ce schisme, cette déchirure, elle reste encore, hélas, aujourd'hui. Alors, comme il faut quand même essayer de se réconcilier, la charité en Christ. Ils sont schismatiques, ils ne sont pas unis à l'évêque de Rome. Alors le pape Benoît XVI, dans sa bonté, a dit, ben voilà, on va accepter que l'on continue à célébrer le baptême, l'Eucharistie, les autres, en latin, ça s'appellera le rite extraordinaire. Le rite ordinaire, ce sera en français, en anglais, en toutes les langues des pays. Le latin sera le rite extraordinaire. Voilà pourquoi il a voulu les réconcilier. Ils n'ont pas voulu. Alors, vous comprenez, on a le même Dieu, le même Jésus-Christ, la même Écriture. Comment est vécue la charité en Christ? C'est bien difficile, ça. Bon, très bien. Je laisse l'histoire de Hippolyte de Ponce. Ah oui, alors mais la fin de l'histoire est plus intéressante. Arrive un... C'est le plus intéressant. Arrive un empereur romain. Attendez, je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne me souviens plus, peu importe. Maximin, je crois. Alors, voyant qu'il y a deux évêques rivaux sur le siège de Rome, il te les envoie aux mines de Sardaigne. Ils ont eu l'intelligence et le flair pour ne pas laisser l'église de Rome sans évêque. Le vrai pape Poncien, l'antipape Hippolyte, ils ont donné leur démission pour qu'un nouvel évêque soit élu à Rome. Et ils sont morts martyrs, ils se sont réconciliés là par le martyr. Et quelques années plus tard, 20 années plus tard, le peuple romain ayant un peu oublié, parce qu'il n'y avait pas, la télévision à l'époque, il n'y avait pas les journaux, le peuple romain il savait un peu ce qui se passait, vous pensez, tiens, il n'était pas très au courant. Le pape alors ramène les ossements des deux martyrs à Rome le 13 août et on les célèbre ensemble le 13 août. Saint Poncien et Saint Hippolyte. C'est le martyr qui a réconcilié et qui a remis sur pied, j'allais dire, l'unité en Christ. Un autre exemple très beau de belle amitié en Christ, nous sommes encore au 3e siècle, entre l'évêque Corneille et l'évêque Cyprien de Carthage. Bon, nous sommes en plein milieu du 3e siècle, exactement en l'année 258. C'est l'année la plus glorieuse de l'Église romaine, parce que nous fêtons le 6 août et le 10 août les martyrs de l'Église de Rome. Le 6 août 258, le pape qui s'appelle Sixte II a été arrêté par la police en pleine assemblée liturgique avec quatre diacres, Janvier, Magne, Vincent et Étienne. Le pape, quatre diacres et quelques fidèles chrétiens martyrisés, on les a décapités. Quatre jours plus tard, le 10 août de la même année 258, le diacre Laurent, qui avait échappé quatre jours plus tôt, est lui-même mis à mort, et son martyr de Laurent, agrémenté par un peu de légende. Hein. On vous dit qu'il a été grillé sur un gru, on n'en sait rien. Bon, peu importe. Le martyr du diacre Laurent a éclipsé un petit peu le martyr du pape et des autres diacres quatre jours avant. Bon, le 14 septembre, alors, de la même année, à partir du 10 août, 14 septembre, il y a un mois, l'évêque de Carthage, Cyprien, fut décapité. Très connu, Saint Cyprien, évêque de Carthage. C'était un grand ami de ce pape Corneille, lequel pape Corneille avait été pape 3 ans seulement, de l'an 250 à l'an 253, décapité. Alors, on a une lettre de l'évêque Cyprien, on l'a dans l'histoire, adressée au pape Corneille, je cite, « Si Dieu fait à l'un de nous, toi, évêque de Rome, je dis pape, mais il faudrait que je dise évêque de Rome plutôt, et moi, évêque de Carthage, si Dieu fait à l'un de nous la grâce de mourir bientôt, que notre amitié se continue auprès du Seigneur. Notre amitié d'ici-bas, notre fraternité en Christ ici-bas, elle se continuera en épiphanie auprès du Seigneur. Et en célébrant les deux ensemble le 16 septembre, l'Église fait mémoire de ces deux martyrs, voilà, Corneille et Cyprien, et perpétue le souvenir de cette fraternité dans le Christ. Bon, très bien. Je dis un mot de Saint Rémy. Nous sommes déjà fin 5e, 6e siècle, à propos de la correction fraternelle dont j'aurai à vous parler pas mal. Vous savez que dans l'Évangile, Jésus recommande la correction fraternelle. Si ton frère a quelque chose contre toi, va le trouver. S'il ne t'écoute pas, fais venir deux témoins. Et s'il ne t'écoute pas, avec deux témoins, tu le voues. Allez, pas en prison, évidemment, mais il n'est plus ton frère. Il n'est plus ton frère, il ne t'écoute pas. Donc, par la correction fraternelle, on peut arriver à rabibocher la fraternité dans le Christ quand elle est mise à mal. Bon, très bien. Voilà. Nous connaissons Saint Rémy. Très bien. L'évêque de Reims qui a baptisé Clovis en l'an 481. Vous voyez, je passe de Rome, 3e siècle, la Gaule de l'époque, fin 5e, 481. Il est mort en 530. Et l'historien Grégoire de Tours nous dit que Rémy a été évêque 70 ans. Peut-être, je n'ai pas vérifié. Alors, sans doute a-t-il été nommé évêque, probablement bien jeune, parce qu'on ne mourrait pas trop centenaire à cette époque-là. Bon, peu importe. Dans son testament, il n'y avait pas d'état civil à l'époque. Dans son testament, le vieil évêque parle du roi Clovis, d'illustre mémoire que j'ai tenu sur les fonts du baptême. Bon, il ne l'a pas tenu comme ça, puisque c'était un adulte. Mais si vous visitez un jour la cathédrale de Reims, vous verrez un endroit, là, on dit, bon, ici, là, là-dessous, c'était la cuve baptismale où a été baptisé Clovis. Bon, ça, c'est possible. Mais mieux que ça, Rémy a été le conseiller du roi des Francs, de Clovis et de ses successeurs. Il lui avait adressé un véritable programme de gouvernement. Dans ce programme, il lui demandait que la justice de ses tribunaux s'inspire de la justice de Dieu. Et mieux que ça encore, il rappelait à ses collègues évêques, ah, attention, Saint Rémy, l'évêque de Reims, conseille à ses collègues évêques leur devoir. Je le cite, « Le Seigneur ne nous a pas établis pour dominer sur le peuple, mais pour le conduire avec douceur. » Il y avait donc déjà des évêques qui se prenaient pour des seigneurs et conduisaient le peuple comme ça. Pour le conduire avec douceur. Soyons des bons bergers, à l'image du bon berger de l'Évangile. Voilà ce que demande Saint Rémy. Mais 100 ans exactement avant Saint Rémy, le grand Saint Augustin, la grande figure de l'Église latine d'Occident, mort en 430, début du 5e siècle. C'est l'époque encore des... Non, les grandes persécutions sont terminées avec l'édit de Milan de 313. Bien. Mais Saint Rome est à ce moment-là, en 430, occupé, envahi et pillé par les Vandales qui ont envahi Rome et l'Afrique du Nord. Alors Saint Augustin demande aux évêques et aux prêtres, écoutez bien, de ne pas abandonner leurs troupeaux en fuyant devant l'envahisseur. Et l'époque du martyr était terminée, les persécutions, les Vandales s'emparent de Rome et de l'Afrique du Nord, et des évêques et des prêtres ont peur, ils fuient. Ils ont fui le martyr, ils abandonnent leurs troupeaux. C'est la fraternité en Christ, ça ? Mal vécu. Je dis un mot de l'avènement du monachisme. Alors ici, le premier millénaire. Malgré tout, la fraternité en Christ va être prônée comme un idéal de vie et va être vécue aussi bien que possible, disons le moins mal possible, par d'abord les premiers moines d'Occident. Je ne parle pas du monachisme oriental, il faudrait 2 heures pour en parler, ce serait trop compliqué. Les moines d'Égypte avec Saint Pacôme, Saint Antoine, Saint Basile, contentons-nous de l'Europe occidentale, chez nous si vous voulez. Ça commence par l'idéal érémitique. En Occident, on veut imiter les ermites de l'Orient. Des ermites, c'est-à-dire des gens qui vivent seuls, à la recherche de Dieu, une intense vie spirituelle. En général, ce ne sont pas des prêtres. Ce sont des ermites. Ils vivent dans des cabanes ou dans des grottes. Coupés du monde, ils méditent jour et nuit l'Écriture. Donc, au départ, ce ne sont pas des prêtres. Quelques-uns, progressivement, le deviendront. Le plus connu d'entre eux, de ces ermites, c'est Saint-Martin. Bon, il vient de la Pannonie, c'est-à-dire de l'Europe centrale. De quel pays d'aujourd'hui ? Probablement la Hongrie. Bon, il est militaire romain, l'histoire du manteau coupé en deux, c'est plus ou moins légendaire, ça se passerait dans le nord de la France, et il a entendu parler de Saint-Hilaire, de Hilaire, évêque de Poitiers, il veut vivre à l'ermite. Il a rencontré Jésus, soldat romain, hongrois, devenu soldat à la, pour l'empereur, il a entendu parler de Jésus et il va s'établir sous les conseils de Hilaire à Ligugé comme ermite, vivant tout seul. Mais sa réputation de sainteté attire autour de lui d'autres ermites. Si bien que un beau jour, on vient le chercher et on en fait un évêque de Tours. Alors du coup, il faut évangéliser les campagnes gauloises. Il va fonder à côté de Tours, à Marmoutier, le premier monastère. Les moines de Ligugé aujourd'hui nous disent « Nous avons été fondés par Saint Martin ». Il était ermite. Est-ce qu'il a fondé les premiers monastères à Ligugé? Moi, je ne pense pas. À Marmoutier, à côté de Tours, quand il est évêque, oui. Bon, peu importe. Laissons tomber ça. Alors, Saint Martin, donc, veut des moines missionnaires, et on les appelle alors des moines cénobites. Oui, les ermites vivent tout seuls. Cénobites, les cénobites, koinonia, la maison, on vit ensemble, en communauté. Et dans un idéal d'intense vie de charité. On est chercheur de Dieu, on s'entraide mutuellement par la charité, par le pardon des offenses. L'idéal monastique, c'est donc de vivre cette fraternité en Christ, même s'il y a quelquefois quelques accros, et je vous donnerai tout à l'heure un exemple, très vite d'ailleurs. Cet idéal monastique sera répandu en Europe par d'autres grandes figures. Je me contente de nommer en Gaule Saint Césaire, évêque d'Arles, qui, avant d'être évêque d'Arles dans le sud de la France, il était moine à Saint-Honorat, à l'île de Lérins, fondée par Saint-Honorat. Puis, au 7e siècle, là nous sommes au 6e. Bon. Au 7e siècle, Saint Colomban, moine irlandais, qui traverse la Manche. Il vient sur le continent s'établir à Luxeuil en Burgondie. Ça correspond en gros à la Haute-Saône d'aujourd'hui, la Burgondie. Le plus connu de tous, Saint-Benoît de Nursy. Ah, alors Saint-Benoît de Nursy, on peut dire que c'est le législateur de tous les moines d'Occident. J'ai ici quelques petits extraits de sa règle dont je vais vous lire 4 ou 5 lignes. Lui, en gros, 480-545. Il est mort en plein milieu du 6e siècle. Il a d'abord mené une vie de solitaire, ermite, à Subiaco, au sud de Rome, puis il s'établit, avec d'autres moines, à Monte Cassino, au Mont Cassin, toujours entre Rome et Naples. Et il établit une règle concernant la vie cénobitique, la vie en communauté, pour que les moines s'entraident de leur mieux à vivre la fraternité en Christ d'une intense charité fraternelle. L'idéal monastique étant donc de vivre en Dieu, de vivre pour Dieu, de vivre entre frères. Et on y pratique la correction fraternelle, selon ce qu'a dit Jésus dans l'Évangile. Quand un moine a blessé, cette fraternité est l'idéal de charité. Ah, comment pratique-t-on la correction fraternelle à l'époque de Saint-Benoît? Alors, il y a des moines vertueux. Il y a des moines, bon, bien. Et puis, il y a des moines qui ne sont pas tellement vertueux. Alors, dans son enseignement, l'abbé, le chef, doit garder cette forme apostolique. Reprend, exhorte, blâme. Alors, quand il y a un moine vertueux, ça veut dire que tu dois le reprendre plus dur. Ah non, pardon, doucement, il a fait une petite blague de rien du tout. Bon. Tu lui donneras une petite admonestation. Mais tu dois reprendre, le père abbé, plus durement ceux qui sont indisciplinés et turbulents. Il y a donc des moines indisciplinés et turbulents? Eh bien, la preuve. Tu dois leur demander de faire de nouveaux progrès en obéissant pour qu'ils deviennent doux et patients. Les négligents et les méprisants, nous l'avertissons, la règle, j'avertis l'abbé, pour les désobéissants, de les réprimander et de les châtier. Les moines qui sont faux, durs, orgueilleux, désobéissants, que les coups ou un autre châtiment corporel les matent, puisqu'il est écrit, le fou ne se corrige pas avec des mots, et encore, frappe ton fils du bâton, et tu délivreras son âme de la mort. En 4 ou 5 endroits, la règle de Saint-Benoît parle des châtiments corporels. J'étais il y a 15 jours dans un monastère, je faisais ma retraite. Bon, alors j'ai dit au père prieur, comme ça, un petit moment de récréation, mais Si vous appliquez la règle de Saint-Benoît, ça existe encore qu'il faut donner un coup de bâton? Il me dit non, non. Parce qu'aujourd'hui, tous les moines sont des saints. À l'époque de Saint-Benoît, c'était pour les aider à devenir saints, vous comprenez? Il fallait donc les châtier. Voilà pour vivre l'amitié en Christ. Bon, très bien. Je continue. -25. Bien. Fin du premier millénaire et début du second. On va vite, oui, arriver en 2018. Le dixième siècle, oh, il faut dire qu'à partir de Charlemagne meurt en 814, au début du neuvième, tout l'empire de Charlemagne, c'est-à-dire tout l'Occident est chrétien. Tout l'Occident est chrétien. Mais évidemment, que sont ces pauvres gens des campagnes? Qu'est-ce qu'ils ont comme culture chrétienne? Rien du tout. Ils ne savent pas lire. S'ils vont à la messe, on leur lit les textes de l'Écriture en latin, vous croyez qu'ils le comprennent? Et même les prêtres qui prononcent ça, vous croyez qu'ils le comprennent? Pas du tout. Quand on lit les textes des conciles, c'est inimaginable. Bon, bref. Le 9e et le 10e siècle. Donc, fin 9e, 10e, tout début du 11e. Le premier millénaire. Alors, je prends une précaution en vous disant, mesdames et messieurs, je risque de vous scandaliser en vous faisant un petit cours d'histoire de l'Église, mais je le fais depuis un moment, en vous montrant par des exemples absolument historiques que je n'invente pas, que l'idéal de fraternité en Christ est très mal vécu. Ce déclin de l'idéal chrétien, même chez les hommes d'Église de l'époque, certes n'est pas venu tout d'un coup. Il s'est progressivement aggravé au cours du 9e siècle, et le 10e siècle a été le pire de tous, au point que les historiens ont qualifié ce 10e siècle de deux mots. Les uns l'ont appelé le siècle de fer dur, et d'autres, seculum obscurum, le siècle obscur. Bon. Charlemagne, je vous ai dit, est mort en 814. Il a été un très grand auxiliaire de la papauté. Et d'une certaine façon, c'est lui qui a gouverné et régenté l'Église. À son époque, en plus de très très nombreux monastères, vous ne pouvez pas imaginer, mais à l'époque de Charlemagne, et encore plus avec Cluny, dont je vais vous parler tout à l'heure, mais Cluny c'est le 11e, c'est un peu plus tard, voyez, je fais des raccourcis, hein. L'Europe est peuplée d'une forêt de monastères, il y en a partout. Partout, 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 partout. Dans notre petit département des Landes d'aujourd'hui, qui n'existe pas à l'époque, il y avait 7 ou 8 ou 9, vous disent, hein, Saint-Sever, Sort de l'Abbaye et quantité d'autres. Bon, très bien, beaucoup d'autres. Et Ponton dans le village de Mans, à Duorbachène, la Castelle, il y en avait plein. Très bien, bon. Donc, à ce moment-là, il y avait des clercs, des moines, et des clercs séculiers, qui n'étaient pas des moines. Il y en avait à foison, et ils ne savaient que faire. Et certains ne savaient même pas célébrer la messe. On se demande comment on pouvait les ordonner prêtres. Mais c'est comme ça. Ces prêtres-là, qui n'avaient pas grand-chose à faire, le célibat ecclésiastique n'était pas du tout observé. Il était recommandé par le concile, mais pas observé. C'était des prêtres coureurs de jupons. Et alors, Charlemagne a eu l'idée géniale de convoquer un concile dans sa capitale à Aix-la-Chapelle. Voilà. On a les décrets de ce concile. Et le pape avait envoyé un représentant, je ne sais plus lequel. Alors, ces prêtres-là de la campagne, il y en a en pagaille, on ne sait pas quoi en faire, on va au moins les obliger à prier. Alors, comme l'office religieux des moines est long, 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 y compris la nuit, eh bien, ces prêtres-là, on ne va pas leur demander de se lever la nuit, mais on va compiler ce long office des moines et on va leur demander de le réciter, le fameux breviarium, bréviaire. Au moins, on va les occuper à quelque chose d'intelligent, on va les occuper à prier, s'ils ne peuvent pas faire autre chose. Bon, voyez, c'est quand même quelque chose d'inimaginable, d'inimaginable. Bon, toute la société, la paroisse, oh, la paroisse, c'est les cellules de base de la société. Ah, je vais vous dire quelque chose d'intéressant sur la paroisse. La paroisse, parecchia, la paroisse. Dans ces époques, toujours fort lointaines, bien sûr, par rapport à nous aujourd'hui, on n'a pas idée. Les paroisses se multiplient. Je parle après Charlemagne en 2 ou 3 siècles. Dans les campagnes et dans les villes. D'abord dans les villes, mais après dans les campagnes. Pensez à Saint-Martin qui voulait évangéliser les campagnes. Alors, dans la paroisse, il y a l'église paroissiale, qui est à la fois la maison de Dieu, mais la maison du peuple de Dieu. Alors, l'église paroissiale, elle est, bien sûr, maison de prière. Mais et les seules à pouvoir rassembler tous les habitants du village. Elle permet les l'église paroissiale, l'église est seule à pouvoir rassembler tous les habitants du village. Elle permet les usages les plus divers. Elle tient lieu de marché couvert. Vous voyez le marché couvert dans la cathédrale ? Bon. Elle constitue un abri pour les pèlerins. Elle devient un lieu de refuge en cas de danger. Elle sert souvent d'entrepôt et de grenier. Cependant, les statuts synodaux des époques, c'est-à-dire les petites lois canoniques que font les évêques, rappellent souvent que l'Église doit être tenue dans un état décent et propre. Mais elle sert pour tout ça. Bon. Je saute encore quelques siècles, j'arrive en 1215, nous sommes au XIIIe siècle, un grand concile fort célèbre qui s'appelle le concile de Latran, le quatrième concile du Latran, il y en a eu plusieurs. C'est le plus célèbre de tous parce que c'est le concile des curés. C'est ce concile de Latran qui oblige les chrétiens de l'époque, tenez-vous bien, à communier au moins pour Pâques et à se confesser une fois par an à leur curé. Ça permet au curé de contrôler son peuple, son troupeau, vous comprenez ? Je ne sais pas s'il tient des statistiques, mais au moins, il sait, il est venu se confesser, il est de mon troupeau, et communier au moins une fois par an. Alors, que dit ce concile à propos des clercs de l'époque ? Je vous cite ça, non pas pour vous scandaliser, c'est de l'histoire, tous les historiens le savent. Bon. Nous déplorons que des clercs mineurs, les clercs mineurs, c'est ceux qui ne sont pas évêques, mais aussi certains prélats, attention, passent presque la moitié de la nuit en festins superflus et en parlotte indécente, et s'adonnent au sommeil l'autre partie de la nuit, se réveillent à peine au chant des oiseaux et demeurent assoupis toute la matinée. Il en est d'autres qui célèbrent la messe juste 4 fois par an et pire encore, s'abstiennent d'y aller. Voilà ce qu'un concile dit des prêtres de l'époque et de certains prélats. Comment voulez-vous que soit vécue la fraternité en Christ là-dedans ? Elle est bien mal en peine. Hein. Bon, la véritable fraternité en Christ. Mais, alors, dans ces siècles de nuit obscure, dans ces temps d'orage et de tempête qui secouent fortement la barque de l'Église, il y a les grands signes lumineux dans le ciel, les grandes figures de sainteté qui font rayonner cet idéal de charité, de fraternité en Christ, selon le modèle de l'Évangile et le modèle de saint Paul. Entre parenthèses, plus j'étudie l'histoire, je ne l'enseigne pas, mais je l'étudie, plus je crois au Saint-Esprit. Il faut vraiment que le Saint-Esprit soit puissant, puisque les hommes d'Église n'ont pas réussi à la démolir. Toutes les institutions humaines, elles durent un certain nombre de temps. Bon, je ne sais pas combien de temps durera l'ONU, mais la SDN, la Société des Nations autrefois, elle a duré quelques années, quelques dizaines d'années, puis c'est tout. Les institutions humaines meurent les unes après les autres. L'Église, depuis Jésus, elle est toujours debout. La barque de Pierre, elle est agitée par les flots, elle n'a jamais sombré. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer pourront te secouer, ce qui est vrai, ne l'emporteront pas sur elle. C'est l'Esprit qui garde l'Église, malgré ces grandes tares chez les hommes d'Église. Alors, les grands phares lumineux, c'est Cluny et le réveil religieux de Cluny. Je ne vais jamais y arriver. Fondé en 909, au début du Xe, par Guillaume, duc d'Aquitaine, qu'on appelait Guillaume le Pieux. Les 4 grands abbés de Cluny, pendant un siècle et demi, Saint Odon, Saint Odilon, Saint Mailleul et Saint Hugues, entre 909 et 1109. Pendant 200 ans, il y a eu là 4 grands abbés, dont l'un a été abbé pendant une cinquantaine d'années. Ils ont fait rayonner Cluny, a rayonné dans toute l'Europe occidentale. Et puis aussitôt après, il y a Cîteaux, car Cluny va devenir un peu malade de sa prospérité même. Alors, il y a des moines par centaines et par milliers, par centaines. Les fondations de Cluny sont innombrables. D'où Cîteaux en 1098, c'est-à-dire 100 ans après, Robert de Molème fonde Cîteaux. Saint Bernard va rentrer à Cîteaux et lui va fonder Clairvaux. Eh bien, Clairvaux, fondé par Saint Bernard, ainsi que 70 autres communautés de cisterciens. Cîteaux, on va les appeler cisterciens. Clairvaux a compté jusqu'à 700 religieux. alors que sitôt l'abbaye mère n'en avait que 250. Alors, je ne vous dis pas, sur le plan de l'art, c'est l'époque des grandes, grandes églises abbatiales, cisterciennes, dépouillées, etc. Mais je ne fous pas un cours d'architecture. En même temps, renouveau de la vie monastique, chercheur de Dieu, vivre l'idéal évangélique, en communauté, en s'entraidant, en pratiquant, bien sûr, la règle de Saint-Benoît. Je ne sais pas si à l'époque on fait encore des coups de bâton, je ne sais pas. Peut-être qu'ils sont devenus saints tout d'un coup, c'est possible. Bon, mais il y avait tellement de moines, ça m'étonnerait. Bon, en même temps va venir au XIIIe siècle le renouveau de la parole. C'est ce qu'on appelle les ordres mendiants. On en connaît quatre. Saint-Dominique, les dominicains et les dominicaines de Dax. Les frères prêcheurs, ils vont prêcher l'évangile. Saint-Dominique ira prêcher l'évangile en langue d'oc. C'est un espagnol, Saint-Dominique, de Guzman. Bon, et il va venir autour de Prouille, là, à l'est de Toulouse, et il va prêcher pour convertir les cathares. Bon, Saint-François d'Assise, qui va rester diacre par humilité. Il ne sera jamais prêtre, François d'Assise. Et puis, Claire d'Assise, la fondatrice de l'ordre des Clarisses, qu'on appelle à l'époque les pauvres dames, on vit de la mendicité absolue. Mendier dans votre nourriture. Et si on ne vous donne pas à manger, c'est que vous avez péché. Plus vous serez saint, plus vous vivrez votre idéal, plus on vous donnera à manger. Bon. Et puis il y a aussi des ordres moins connus, les Carmes, fondés en Palestine, et de multiples congrégations religieuses qu'on appelle les Augustins, parce qu'ils se réclament d'une règle de Saint-Augustin. Voilà les grands pôles lumineux entre 10e, 11e, 12e, 13e siècle. Je dis un mot. Voilà. Concile de Latran, déclin de la papauté. Ah, mais j'ai fini ma première page, alors c'est bien. Non, je suis au bas de la première page, là. L'instauration de la trêve Dieu. C'est très intéressant pour indiquer aux chrétiens comment vivre la fraternité en Christ. En 1027, nous sommes au tout début du XIe siècle, dans les Pyrénées-Orientales d'aujourd'hui, aujourd'hui c'est le département des Pyrénées-Orientales, il y a un petit concile près de Elne, à Elne, dans les Pyrénées-Orientales, vers Perpignan, il y a une belle cathédrale. L'abbé Oliva, d'abord abbé de Cuxa et de Ripoll, c'est de l'autre côté des Pyrénées, puis évêque de Viche, proclame la trêve Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? On se bat sans arrêt. Et qui c'est qui se bat? Et des chrétiens entre eux. Il y a tout le monde des chrétiens. Ils se battent, ils se font la guerre. Les seigneurs, le seigneur contre l'autre seigneur, le marquis contre l'autre marquis, etc. Alors, cet abbé Oliva, en 1027, dit « Il sera interdit de se battre le dimanche ». C'est déjà pas mal. On fait un petit progrès. En l'honneur de la résurrection du Christ. 5 ans plus tard, en 1033, un autre concile provincial de Viche. Interdiction de se battre pendant 3 jours. Le vendredi, à cause de la passion du Christ, samedi, c'est le jour creux, et le dimanche, la résurrection du Christ. Et en 1041, tout de suite après, saint Odilon, l'abbé de Cluny, avec les évêques de Provence, interdiction de se battre pendant 4 jours. Le jeudi, à cause de la fête de l'Ascension, le vendredi, samedi et le dimanche. On ne peut plus se battre que le lundi, mardi et mercredi. C'est un sacré progrès, ça, vous comprenez. Arrêtez de se battre. Et puis enfin, interdiction totale de se battre pendant les temps liturgiques de l'Avent, de Noël, du Carême et du temps pascal. Il ne reste plus beaucoup de temps et de jours pour se faire la guerre. Ça veut dire que notre fraternité en Christ, notre idéal pour les chrétiens qui se réclament de Jésus-Christ Sauveur, qui participent à l'Eucharistie dominicale tant bien que mal, cet idéal, il est mal vécu. Et 2 conciles du Latran, celui dont j'ai parlé tout à l'heure, non. 2 autres en 1139 et 40 ans plus tard en 1179 étendront la trêve Dieu à toute l'Europe chrétienne. Bon. Magnifique idéal de sainteté, du pardon des offenses, magnifique idéal de fraternité chrétienne, c'est l'idéal même de saint Paul et de l'Évangile. Comment est-il vécu? Pas bien. Et nous sommes tout près des croisades. Les croisades allaient délivrer le tombeau du Christ à Jérusalem des mains des musulmans. Mais en 1204, les armées chrétiennes d'Occident, avant d'arriver à Jérusalem, sont passées par la Grèce, par Constantinople, et ils ont mis le sac de la ville de Constantinople. Ils ont fait en 1204 ce que Daesh fait aujourd'hui, par là, en Syrie, partout par là. des chrétiens contre d'autres chrétiens. Parce qu'entre-temps, bien sûr, il y avait eu en 1054 la grande brisure, j'en ai pas parlé, chrétiens d'Orient, orthodoxes, et chrétiens d'Occident, latins. Interdit, voilà. Il y a, voyons, en 2004, nous sommes en 2018, il y a 14 ans, quatre évêques français sont allés là-bas, chez le patriarche œcuménique de Constantinople. Et ils ont rencontré plein des popes, des moines orientaux. Ils ont demandé pardon, publiquement pardon, pour ce que les chrétiens d'Occident ont fait en 1204. Mais ils n'ont pas été bien reçus du tout. On n'a pas accepté ce pardon. Alors, vous croyez qu'on vit la fraternité en Christ aujourd'hui? Et non, hélas, bon, malheureusement. Magnifique idéal de sainteté. Bon. Et puis alors, je ne vais pas continuer à parler de ça, c'est moins de 10 déjà, la réforme, il faut parler un peu de réforme. Il y avait eu en 1054, plein milieu du 11e, la grande brisure, les chrétiens d'Orient orthodoxes, avec leur patriarche, et les chrétiens d'Occident latins. Et on n'est pas encore arrivé à l'unité, on n'y est pas encore arrivé tout à fait, malgré les grands efforts de Vatican II. Mais entre-temps, il y a eu la grande brisure, le schisme chez les chrétiens d'Occident. On a célébré l'année dernière, en 2017, le 500e anniversaire de la réforme de Luther. Ça a donné aux chrétiens catholiques l'occasion d'avoir un nouveau regard sur Luther. Un regard pacifié sur la personne de Luther, et non pas un regard méchant comme c'était avant. Bien. Après, nous sommes d'abord au XIVe siècle, il y a eu 7 papes d'Avignon légitimes. Les papes d'Avignon, les 7, tous français, sont des papes légitimes. Ils ont fui Rome parce qu'il y avait trop de troubles à Rome. Bon, alors je ne vais pas vous raconter que la papauté d'Avignon, il y avait les états pontificaux qui avaient été donnés au pape par un fils de Saint-Louis, Philippe. Il avait donné, mais pas Avignon. C'est l'un des papes d'Avignon qui a acheté à la reine de Naples la ville d'Avignon. Très bien. Il y a eu 7 papes successifs, tous légitimes. Puis, ils partent. Alors, ça a duré à peu près 75 ans, la papauté d'Avignon. Et puis, au retour, alors, il revient à Rome, en 1478, je crois, par là. Oui, 1378. Le retour du pape à Avignon, il va y avoir des antipapes, plusieurs. Ça va durer de 1305, de 1378 à 1415. 37 ans. Alors, les antipapes, les faux papes, comme ça s'était passé avec Hippolyte, eux vont s'installer à Avignon où les locaux sont libres. Bon, c'est un schisme. On appelle ça le schisme d'Occident. Et ça va se terminer quand même en 1415. Ça part de 1378, 37 ans de schisme. Le pape légitime et l'antipape vont donner leur démission et en 1415, un concile de... Je cherche le nom par là, c'est en Allemagne, peu importe, va élire un vrai pape, Martin V. Mais il y a eu cette brisure, il y a eu ce schisme-là. On retrouve une certaine unité. Et aussi tout après, il y a l'affaire de Luther. Bon, j'aurais dû garder Luther pour maintenant. Qui était Martin Luther? Un fils de petite bourgeoisie, son père exploitait une mine, il fait des études universitaires, ce qui est pas mal, dans une faculté des arts à Erfurt, il est bachelier en 1502, il est maître, la maîtrise en 1505, ça ne correspond pas au diplôme d'aujourd'hui, non. Et il devient moine augustin et prêtre en 1507, début du 16e, 1507. C'est un moine classique, pieux, mais d'un tempérament extrêmement scrupuleux et angoissé. Tellement scrupuleux et angoissé que la célébration de la messe suscitait chez lui une angoisse terrible. Il est incertain du pardon des péchés. Il craint de s'approcher de Dieu dans l'Eucharistie. Il a peur de l'enfer et il étudie à fond la Bible, à la fois dans le texte hébreu, dans le texte grec et dans le texte latin. Mais auparavant, il avait étudié certains moines du Moyen-Âge, et en particulier, il était pétri de la théologie de Saint Bernard de Clairvaux. Et Martin Luther, moine, a découvert dans Saint Bernard de Clairvaux la grandeur et la toute-puissance de la miséricorde de Dieu. Il a découvert chez Saint Paul, que le péché a beau abonder, la grâce de Dieu surabonde. C'est ce qui l'a sauvé de son angoisse perpétuelle. Et puis en plus, il dit, le salut est donné gratuitement par Dieu. On n'achète pas le salut, c'est la foi, et la foi seule, et l'amour de Jésus, Sauveur, qui nous assure gratuitement le salut, malgré notre péché et sans aucun mérite de notre part. Très bien. Mais, à ce moment-là, il fallait construire, on est au XVIe siècle, les grandes basiliques romaines, il fallait des sous. Alors, Rome vendait les indulgences. Vous avez appris ça. Vous avez tous étudié le catéchisme d'autrefois. Heureusement qu'on n'enquiquine pas les enfants d'aujourd'hui au catéchisme en leur parlant des indulgences. Ils n'y comprenaient rien du tout. Hein. Mais qu'est-ce que vous avez appris autrefois? Je suis pécheur, j'ai commis des péchés. Je vais me confesser. Alors, au péché, il y a une peine éternelle, l'enfer. Et une peine temporelle. Il faut ajouter, toi, un petit quelque chose. Alors, tu te confesses, tu reçois l'absolution, tu es pardonné, tu es dispensé de faire la peine éternelle dans l'enfer. Mais il te reste des petites peines à purger le purgatoire. Voilà. Alors, tu peux te racheter de ces peines temporelles, en faisant un pèlerinage à pied à Compostelle, un pèlerinage à pied à Rome, un pèlerinage à pied à Jérusalem. Mais on peut te dispenser du pèlerinage si tu as des sous. Alors, tu vas donner des sous, et plus tu vas donner des sous, tu seras dispensé de 30 jours, 40 jours, 1 an, 7 ans, 7 quarantaines de purgatoire. Ça, non, il faut que je sois correct dans mon vocabulaire. Donc, voilà. Bon. Heureusement que nous n'en parlons plus de ça. Heureusement que nous n'en parlons plus. Au début, Luther a souhaité avoir une disputation. Une disputation, c'est quoi? Pas une dispute, un coup de poing, non. Une disputation entre gens spécialistes de la Bible. Que nous dit la Bible? Que nous dit Saint Paul? Et qu'est-ce que vous faites? Ce que vous faites à Rome, c'est contraire à la Bible. Bien. Au début, Luther souhaitait simplement une réforme de l'Église de l'intérieur pour vivre la sainteté, l'obéissance à Jésus, l'idéal de fraternité chrétienne. Il ne souhaitait pas du tout rompre avec l'Église. Malheureusement, alors, il a envoyé ses fameuses thèses à son évêque de l'époque. Il les a envoyées au pape, qui n'ont pas répondu. Alors, il les a affichées à la chapelle du château de Wittenberg. J'ai lu l'année dernière que certains historiens maintenant disent « On a toujours dit qu'il avait affiché les thèses, et c'est peut-être pas vrai. » Bon, peu importe ça. Il demandait une disputation, un débat théologique. Ce débat lui a été refusé. Et alors, soutenu par les princes allemands, qui étaient contre Rome, évidemment, il a fini par franchir la ligne rouge, et ça a donné, évidemment, le schisme, la grande rupture. Il a même demandé au cardinal Cajetan, parce que le pape avait envoyé un cardinal de Rome, Cajetan, pour lui demander à Luther de renoncer à ses idées. Et il a dit ceci, il a refusé, tant qu'on ne lui aura pas démontré qu'il contredit l'Écriture. Et effectivement, il ne contredisait pas l'Écriture. Il a fallu arriver en 1979, je crois, oui, à peu près il y a une quarantaine d'années, pour qu'enfin il y ait un document signé par la Fédération luthérienne mondiale et l'Église romaine sur la justification. Bon, oh là, c'est moins deux. C'est cinq. Bon, oh, alors, je saute encore. Alors, il y a eu les guerres de religion. Non. Voilà. Le mouvement œcuménique d'aujourd'hui, depuis Vatican II, je pense que Benoît Marchal va vous en parler abondamment la semaine prochaine. Bon, alors, il y a eu les guerres de religion, que vous savez, le massacre de la Saint-Barthélemy, bon, et tout le reste. Bon, 21e siècle. Ah, c'est aujourd'hui. Oui, le 20e, bien sûr, mais on est au 21e, le siècle dernier. Et aujourd'hui, est-ce que nous vivons l'idéal de fraternité en Christ? Nous essayons. Mais il y a toujours du péché dans notre cœur. Vous êtes bien d'accord? Alors, enjambons les siècles, arrivons à aujourd'hui, dans notre premier quart du 21e siècle. Est-ce que cet idéal de fraternité, selon l'enseignement de Saint Paul et de Saint Jean, est vraiment vécu? Pas mieux que dans les siècles précédents. Nous y tendons, bien sûr, et nous sommes en plein carême, et nous sommes conscients de notre péché personnel et du péché collectif du peuple de Dieu. Nous avons entendu ces jours-ci la prière de Azarias dire « Pardonne à ton peuple, nous nous sommes détournés de toi, nous n'avons pas écouté. Nous, et non pas je. Quand je vais me confesser, j'accuse mes péchés. Je ne vais pas accuser les péchés des autres que je ne connais pas. Les miens, d'accord. Mais il y a toujours le péché personnel et le péché du peuple de Dieu en tant que peuple. C'est cet idéal de fraternité qui est plus ou moins bien vécu et plutôt mal vécu. Alors, vous avez entendu dire, on l'a dit à la radio, on l'a dit à la télévision, on l'a lu dans les journaux, qu'il y a 3 ou 4 ans, au début de son pontificat, le pape François actuel souhaitait que l'Église s'ouvre vers les périphéries existentielles, c'est-à-dire pas vers les périphéries géographiques, mais les périphéries existentielles, ça peut être à côté de chez vous, votre voisin, votre rue, votre quartier, votre immeuble, c'est-à-dire des gens qui sont très éloignés, bien, de l'Église. Eh bien, la pastorale, ou j'appelle ça la pastorale, l'enseignement et les exemples, mais son enseignement surtout, du pape François ne sont pas de tous les goûts aujourd'hui. Vous savez qu'il y avait en France, il y a 2 ans ou 3 ans à peine, oui, tout juste, des hommes politiques qu'on appelait des frondeurs. Vous avez entendu parler ? Avant les élections présidentielles, il y avait dans le gouvernement de l'époque les frondeurs. Eh bien, des frondeurs, il y en a à Rome. Et il y a des cardinaux frondeurs. Alors, le 21 décembre dernier, il y a 2 mois, tenez-vous bien, le pape François a prononcé devant toute la curie romaine un discours. Vous en avez peut-être entendu parler. Alors, la curie romaine, vous avez 15 ou 20 cardinaux. Ça, c'est les grands monseigneurs, les grands et gros monseigneurs, les cardinaux à vue rouge. Après, vous avez des moyens monseigneurs, des évêques en violet, des petits monseigneurs de pacotille, comme moi. Je suis un petit monseigneur de pacotille, là. Si j'étais à Rome, on m'appellerait monseigneur, bon. Et puis des chapelains de la sainteté. Et un personnel laïque énorme dans tous ces secrétariats. Il en faut du monde. Bon. Le pape, et il a voulu mettre un peu d'ordre dans la curie romaine. Parce qu'il y avait des abus de toutes sortes, et en particulier des abus, ne le dites à personne, dans les finances du Saint-Siège. Alors voici comment il leur a parlé. Je cite le pape François. Il y a dans la curie romaine des traîtres de la confiance et des profiteurs de la maternité de l'Église. Aucun pape n'avait jamais parlé comme ça. Il n'aura pas passé de la pommade, hein ? Ah non, ni de la confiture. Des traîtres de la confiance et des profiteurs de la maternité de l'Église. Et il a mis en garde ceux, je cite de nouveau, ceux qui travaillent encore à la curie, à qui tout le temps est donné pour reprendre le droit chemin, dans l'espoir de trouver, dans la patience de l'Église, l'occasion de se convertir et de ne pas en profiter. Alors il a souligné, en souriant, paraît-il, je l'ai lu dans le journal, il a souri, un évêque belge du XIXe siècle, très connu, cet évêque belge qui était à Rome, il s'appelait Xavier de Mérode. Cet évêque belge, on est au 19e, vous vous rendez compte, avait dit ceci, « Faire des réformes à Rome, c'est comme nettoyer le sphinx d'Égypte avec une brosse à dents. » Allez nettoyer le sphinx d'Égypte ou avec une brosse à dents. Vous n'y arriverez jamais. Eh bien, faire des réformes à Rome, difficile. Toutefois, il a passé un peu de pommade en n'oubliant pas, je le cite de nouveau, « l'écrasante majorité » de ceux qui, dans la curie, travaillent avec un engagement louable, avec fidélité, avec compétence, avec dévouement et même sainteté. Bon, c'est-à-dire que les loups ne sont pas trop nombreux. Je ne sais pas combien ils sont à la curie. Mais il y en a quelques-uns. Il y a des cardinaux frondeurs, on le sait. Le mot « sainteté » n'est pas prononcé par le pape. Si, qu'est-ce que je dis ? Et même sainteté, oui. Dévouement, le mot « sainteté » est prononcé par le pape. Sainteté malgré le péché des hommes d'Église. C'est-à-dire que cet idéal de fraternité, être frère, être un dans le corps du Christ, qu'enseigne saint Paul, ça existe quand même, c'est blessé par le péché, et le péché blessera toujours cette unité et cette fraternité. Alors, j'espère ne pas vous avoir brossé un tableau trop sombre, trop noir, pessimiste et négatif sur le sujet qui m'a été demandé. Jésus nous invite tous et chacun à la conversion permanente. Car j'aime dire quelquefois que les saints qui ont eu terriblement conscience de leur péché, les saints sont des pécheurs, mais qui se sont laissés travailler, tarauder par la grâce du Christ. Ils se sont laissés modeler par la grâce de Jésus-Christ Sauveur. Voilà, mesdames et messieurs, le fondement et la source de notre espérance. J'ai terminé. Merci.
C'était le père Alfred Brett sur le thème « La fraternité en Christ » lors d'une conférence donnée au foyer Sainte-Marie le mercredi 7 mars 2018.